Vous savez, j'ai un problème. Chaque année, le même. Chaque année, j'oublie la date de la Saint-Valentin. Alors j'en entends déjà qui disent « Ah ben ça, c'est bien un homme ». Mais écoutez, je sais que c'est en février, mais la date, j'oublie chaque année. Je ne sais plus quel moment c'est. Alors heureusement, les magasins viennent généralement à mon secours. Parce que dès qu'ils ont rangé leur matériel de Noël, c'est le matériel de la Saint-Valentin qui arrive, les petits ours rouges, les petits cœurs rouges, les petites cartes sentimentales, les petits rubans. Toute cette affaire-là se trouve sur les rayons et vous avez des grandes pancartes qui vous donnent la date. Ça me sauve. Alors ça arrive généralement bien à l'avance, j'ai le temps de préparer mon affaire, mais j'oublie chaque année, bien entendu. Alors quand j'y pense, je pense que la Saint-Valentin, c'est encore une histoire comme Noël. Noël, les boules, les Pères Noël, les guirlandes, c'est la même chose à Pâques. À Pâques, les lapins, les œufs, les petites fleurs, la Saint-Valentin, les petits cœurs, etc. C'est une histoire commerciale finalement. Hein? Mais Noël, c'est plus que le Père Noël. Pâques, c'est beaucoup plus que les œufs et les lapins. De la même manière, la Saint-Valentin, c'est beaucoup plus que les petits cœurs rouges et les cœurs en chocolat. Il y a beaucoup plus derrière. Mais le monde d'aujourd'hui est rempli de valeurs auxquelles nous voulons résister. Et vous savez, du point de vue de la famille, à quel point la famille est attaquée aujourd'hui. D'ailleurs, mes amis, laissez-moi vous dire, si vous avez peur, à cause de vos valeurs familiales, qu'on vous considère comme des démodés, comme des ringards, comme des gens dépassés, comme de vilains conservateurs, comme des intégristes. Si vous avez peur qu'on se moque de vous parce que vous avez des valeurs trop anciennes qui ne sont plus à la mode ou qui ne sont même pas politiquement correctes, alors peut-être que déjà les valeurs familiales que vous avez sont en danger. Peut-être que déjà les fondements de la famille chez vous sont déjà un peu ébranlés. Il est toujours difficile de remonter le courant et cependant, je crois que la Saint-Valentin est un moment idéal. En fait, on voudrait que ce soit la Saint-Valentin tous les jours, pas seulement au jour de la Saint-Valentin, mais le lendemain et puis le jour d'après, et que ce soit tous les jours de l'année, comme ça on n'aurait même pas besoin de se souvenir de la date et j'aurais plus de problèmes. Et je sais que ce matin, en parlant de la famille, certains vont penser qu'ils n'ont pas de famille. Ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas fiancés, loin de l'être. Certains n'ont plus de couple. Certains n'en auront plus jamais parce que l'autre moitié d'eux-mêmes s'est endormie et ne se réveillera qu'au moment où Jésus reviendra. Cependant, la famille est une institution aussi vieille que le monde. Et je crois qu'il est intéressant pour nous, qui que nous soyons, de trouver dans cette institution des raisons de louer le Seigneur. Parce que tous les jours, nous disons « Notre Père qui est aux cieux ». Alors ce matin, j'aimerais vous proposer une recette pour une Saint-Valentin qui dure. Et évidemment, une recette en 7 ingrédients. Une recette en 7 ingrédients. 7 ingrédients pour un couple chrétien en bonne santé. Alors, en une demi-heure, vous pensez bien que c'est trop peu, mais laissez-moi survoler ces 7 ingrédients avec vous. Je crois qu'il est important de temps en temps d'y revenir et de rafraîchir notre mémoire par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit et ce que Dieu voudrait que nos foyers puissent être. 7 ingrédients pour une famille chrétienne en bonne santé. Numéro 1, amour et respect. Alors, nous allons prendre ce texte que vous connaissez bien, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5. Et j'imagine déjà que quelques-uns vont se dire « Aïe, 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 Éphésiens 5, ça commence mal. » Alors nous allons tout de suite aller au verset qui résume ce que l'apôtre Paul veut dire à partir du verset 22. Et j'aimerais lire avec vous le verset 33. Éphésiens, chapitre 5, verset 33, où il est écrit « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » Amour et respect. Et je sais que ce texte a été utilisé et abusé. Mais entendez bien ici la parole de Dieu. Lorsque Dieu propose aux maris d'aimer leur femme, il sait de quoi il parle. Et lorsqu'il propose aux femmes de respecter leur mari, il sait de quoi il parle. Emerson Hegrix a écrit un livre, Love and Respect, Amour et Respect. Et j'aimerais vous lire quelques lignes qu'il a écrites dans ce livre. Il raconte comment, impressionné par ce passage, il a essayé de comprendre le lien qu'il y a entre amour et respect, dans le sens biblique du terme. Et en racontant cette histoire, il a écrit un ou deux paragraphes au début de son livre, dans le premier chapitre, que j'aimerais partager avec vous. Il écrit ceci. « Amour et respect, c'est la clé pour tous les problèmes dans le mariage. La manière dont ces deux éléments agissent ensemble va déterminer ce que le couple sera. Je raisonnais en me disant, un mari est même appelé à aimer son épouse disrespectueuse et une épouse est appelée à respecter son mari qui ne lui montre pas d'amour. Mais j'ai compris aussi pourquoi aimer et respecter est si difficile. Quand un mari se sent non respecté, il a naturellement tendance à réagir d'une manière qui n'exprime pas d'amour à sa femme. Et quand une femme ne se sent pas aimée, elle aura naturellement tendance à agir d'une manière qui n'exprime pas de respect à son mari. Ainsi se crée un cercle vicieux. Nous devons reconnaître que ce cercle vicieux est à l'origine de bien des difficultés et de conflits dans nos familles et dans nos couples. Dieu invite les maris à aimer leurs femmes comme eux-mêmes. C'est beaucoup ça. Et quand on lit les versets qui sont précédents, le verset 33 dans Éphésiens 5, on réalise que ce que Dieu demande aux hommes est infiniment plus grand que ce qu'il demande aux femmes. Aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Qui est suffisant pour ces choses? Et Dieu demande aux femmes de respecter leur mari. On ne parle pas ici du respect servile, on parle ici du partenariat. Et dans le texte que nous avons, il est dit au début que le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Et le mot qui est employé là, c'est le mot « tête », que nous pourrions traduire dans un français contemporain comme étant le leader. Et quel est le mari qui ne sera pas respecté par sa femme lorsque lui-même est un leader qui suit le leader par excellence, qu'est le Christ. Amour et respect. C'est le numéro un dans ses ingrédients pour un couple en bonne santé. Le deuxième, c'est humilité. Et j'aimerais lire un passage avec vous dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, au verset 3, il est écrit ceci. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » L'humilité. Ce n'est pas un élément qui est naturel à notre cœur. D'ailleurs, quand on y pense, tous ces ingrédients d'une famille en bonne santé nous amènent tous à réaliser que nous sommes insuffisants et qu'il faudra aller les chercher auprès de celui qui est amour par définition. Si ce n'est pas lui qui nous les donne, nous ne les aurons jamais et nous serons condamnés à avoir recours à nos tendances naturelles. Notre tendance naturelle, c'est moi, et c'est moi d'abord. Et Dieu dit, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Ça, c'est difficile. C'est en effet ce que nous sommes invités à faire par rapport à notre mari, à notre femme. Comme nous-mêmes, en fait. Aimer notre femme ou notre mari, c'est comme nous aimer nous-mêmes. Et peut-être que ça nous donne une idée que c'est plus facile à faire. Jésus avait dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. En fait, notre mari et notre femme, c'est notre plus proche prochain. Par conséquent, c'est par là que ça devrait commencer. Pour autant que nous comprenions et que nous acceptions ce principe biblique selon lequel deux font un. Et nous en reparlerons dans un instant. Même si c'est difficile à comprendre, s'aimer soi-même, fait partie aussi de ce que le Seigneur nous invite à vivre. Et dans cette catégorie, s'aimer soi-même, se trouve aussi l'autre, ma femme, mon mari. Le troisième ingrédient, c'est l'intégrité, ou bien on pourrait parler d'honnêteté. Regardez avec moi un passage dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7. J'aimerais regarder avec vous ce matin un aspect de l'intégrité. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, dès le premier verset, il est dit ceci. « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurerez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans le tien ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ?» Jésus parle ici d'une question très délicate. Et Jésus a la sagesse de présenter cette question avec beaucoup d'humour. Il est là en train de dire aux gens qui l'écoutent, « Écoutez, comment est-ce que vous pouvez aller dans l'œil de votre voisin ?» « Oh, tu sais, mon ami, tu as une petite poussière là, il faut que je l'enlève. » Alors que vous, vous avez un piquet, un arbre, un poteau électrique dans le vôtre. Et vous pouvez imaginer les gens qui sont là, qui rigolent parce que c'est vrai. Alors toi qui as un piquet dans ton œil, une poutre, tu sais ce que c'est qu'une poutre. Tu n'y vois plus rien et tu vas enlever la poussière qui est dans l'œil de ton voisin. Dans l'œil de ta femme, dans l'œil de ton mari. Et en effet, en voyant cette petite poussière dans l'œil de l'autre, on en fait une poutre, une montagne, et il faut intervenir. En fait, c'est malhonnête, ce n'est pas juste, c'est démesuré. Et vous savez, on a reproché souvent aux femmes de critiquer leur mari. Mais en fait, c'est valable pour tout le monde. Critiquer, en réalité, quand j'y pense, c'est une manière de me placer supérieur par rapport aux autres. C'est la raison pour laquelle c'est malhonnête. Alors ces femmes qui ont la réputation de critiquer leur mari, de leur reprocher ceci, de leur reprocher cela, de ne pas avoir fait ceci, de ne pas avoir fait cela, de ne pas être entré au bon moment, d'avoir oublié ceci, de ne pas avoir fait ce qu'il avait dit, vous voyez ce que je veux dire? Mais vous savez, les maris ont leur moyen de prendre leur vengeance qui n'est pas meilleure. Que font les maris quand ils ont une femme qui est de cette manière-là en train de constamment les critiquer? C'est fort simple. Eh bien, ils racontent en public des blagues méchantes sur leur femme. Ou bien, en public, ils critiquent leur femme. Autrement dit, ils essayent de l'humilier. Mais vous comprenez bien que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ce n'est pas un comportement de nature à construire la confiance à l'intérieur du couple. Janet Page, qui travaille comme assistante pour le ministère de l'association pastorale à la Conférence générale des Églises adventistes, raconte cette histoire. C'est l'histoire d'une femme qui avait pris l'habitude de faire constamment la liste de tout ce que son mari était supposé faire dans la maison. Arranger ceci, changer l'ampoule, réparer cela. Une liste impressionnante. Elle collait ça sur le réfrigérateur. Seulement, son mari, lui, travaillait dans la construction. Et il disait, « J'ai travaillé toute la journée à réparer des maisons. Je rentre chez moi le soir. J'ai pas envie de recommencer encore à la maison. » Ce qui fait qu'il ne faisait jamais ce qu'il y avait sur la liste. Et la liste s'allongeait. Et constamment, sa femme lui disait, « Il y a ceci à faire, il y a cela à faire, il y a cela à arranger. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ci ?» Et puis cette femme a pensé qu'il fallait qu'elle prie à ce sujet. Alors elle a prié, elle a compris que le Seigneur lui a dit d'arrêter d'en parler à son mari. Alors elle a enlevé la liste du frigo, elle n'a plus rien dit. Et les semaines ont passé. Les semaines ont passé, et de nombreuses semaines après, un soir, cet homme rentre du travail et il se dit, « Tiens, il y a un tas de choses à faire dans cette maison. » Et il a commencé à arranger tout ce qu'il y avait à arranger partout. De la cave au grenier, il a commencé à bricoler, à arranger tout ça. Et quand il a eu terminé, sa femme est venue le voir et lui a dit merci. Et lui a dit, t'as remarqué ?
Remarqué quoi ?
T'as pas remarqué ?
Non.
T'as pas remarqué que depuis des semaines, je ne t'ai plus rien demandé de faire dans la maison ?
Ah oui, c'est vrai.
Et sa femme lui dit, j'ai demandé au Saint-Esprit de t'embêter avec ça à ma place. Et je vois que c'est beaucoup plus efficace. Et je crois qu'effectivement, la critique à laquelle nous sommes souvent enclins à nous laisser aller est véritablement destructeur. L'élément numéro 4, je l'ai appelé la simplicité, et j'aimerais lire avec vous ce passage qui se trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 15. Épître aux Romains, chapitre 15, versets 1 et 2. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher à nous plaire. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Simplicité, autrement dit, ne pas vouloir changer l'autre, mais chercher à plaire à l'autre. Vous savez, nous sommes des gens bizarres quand on y pense. Quand on se fréquente et qu'on n'est pas encore marié, on est émerveillé par les différences de l'autre. Mais dès qu'on est marié, curieusement, il se passe quelque chose, c'est qu'on a envie que ces différences disparaissent et qu'il devienne autrement que ce qu'il est. Alors nous avons souvent cette difficulté de penser que les difficultés dans le mariage vont s'arranger si on arrive à changer l'autre. Mais écoutez, mes amis, nous avons à reconnaître que nous avons déjà tellement de mal à nous changer, nous, et nous pensons que c'est plus facile pour les autres de se changer. Nous devons lutter à genoux dans la prière et lutter pendant des années pour que le Seigneur nous change, nous, et nous voudrions que l'autre change en un coup de baguette magique. On n'arrive pas à se changer soi-même. Pourquoi allons-nous demander à l'autre de changer ? Une autre manière d'énoncer ce principe, ce serait de dire « Il ne faut pas chercher le mari ou la femme parfaite. Il faut chercher à être le mari et la femme parfaite pour l'autre. » Ça change complètement notre attitude, finalement, au sein même de la famille. Cette simplicité d'être ce que nous sommes et de laisser à l'autre le soin de travailler avec le Seigneur pour changer son cœur. Parce que moi-même, j'ai la même tâche à accomplir. Le cinquième ingrédient pour une famille en bonne santé, c'est l'intimité. Regardez avec moi ce texte de Genèse, chapitre 2. Genèse chapitre 2, le verset 24. Genèse chapitre 2, le verset 24. Il est écrit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Dans ce texte, il est dit une seule chair. Et cette expression est intéressante parce que le mot qui est employé ici, c'est exactement le même mot qui est employé dans Deutéronome au chapitre 6 et au verset 4 dans cette profession de foi où il est parlé de l'éternel Dieu qui est le seul Dieu. Alors on comprend qu'en devenant une seule chair, il peut y avoir plusieurs personnes. De la même manière que dans un seul Dieu, il y a plusieurs personnes. Difficile à comprendre. C'est la mathématique de Dieu. Cette mathématique bizarre qui veut que 1 plus 1 fait encore 1. Et lorsqu'il s'agit de Dieu, certains ont du mal à accepter cette mathématique bizarre simplement parce qu'ils n'arrivent pas à la comprendre. Que 1 plus 1 plus 1 fasse encore 1. Mais enfin, n'est-ce pas la nature de Dieu ? Et curieusement, dans ce passage de Genèse chapitre 2, verset 24, nous apprenons qu'il y a comme quelque chose de la même nature dans le couple qu'il y a dans la nature divine. Un, mais plusieurs. Ce texte nous rappelle qu'il y a aussi un mode d'emploi. Il est dit, l'homme quittera son père et sa mère. Il y a un sacrifice. Parce que quitter, c'est un sacrifice. Pour qu'il y ait cette intimité, cette unité, il faut aussi avoir une relation exclusive, unique. Et qui dit exclusif, dit rejet du reste. Et c'est effectivement ce qu'il y a. Il faut d'abord quitter son père et sa mère, quitter là où on a grandi. Et vous savez, ce n'est pas toujours facile, ni pour les parents, ni pour les enfants, de couper le cordon ombilical. Cependant, c'est un sacrifice à faire, et pour les parents, et pour les enfants. Quitter. Quitter non seulement les parents, mais quitter aussi le type de relation qu'on pouvait avoir avec les autres. Parce que si l'on veut cette relation exclusive et unique, on ne peut pas l'avoir la même avec les autres autour de nous. C'est sélectif. Et puis le texte nous dit, il ne faut pas simplement quitter, mais il faut aussi s'attacher à sa femme. Créer un attachement unique. On ne peut pas être ensemble comme on est quand on est tout seul. Parce que le texte nous dit qu'ils vont devenir une nouvelle personne. Une nouvelle personne avec deux dimensions. Mais je ne peux pas vivre dans mon couple de la même manière que je vivais quand j'étais tout seul. Ou je ne peux pas non plus avoir les mêmes amitiés de la même manière lorsque je suis marié que lorsque j'étais célibataire. Autrement dit, il y a une certaine dépendance. Quand je construis une relation exclusive, je construis aussi une dépendance. Dépendant de cette personne-là, j'accepte d'être dépendant de l'autre. Et cette dépendance correspond à des limitations. Quand j'y pense, cette exclusivité, elle ressemble beaucoup au parcours spirituel que je suis invité à vivre. Ressemble beaucoup au baptême, par exemple. Avant mon baptême, j'étais tout seul, je me débrouillais tout seul. Je comptais sur moi pour m'en sortir. Et puis finalement, j'ai compris que le Seigneur m'invite à une relation, à une alliance exclusive. C'est ce que je vis dans le baptême. Avant le baptême, c'est moi tout seul. Mais après, je ne suis plus tout seul. Nous sommes deux. Il y a moi et Dieu. Non, il y a Dieu et moi. Comme dans le couple, finalement. Autrement dit, notre démarche spirituelle est là pour nous apprendre aussi à vivre à l'intérieur de notre couple selon le mode d'emploi que le Seigneur lui-même a donné. Intimité, exclusivité. Le sixième ingrédient, c'est complicité. Et j'aimerais lire avec vous ce passage dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 2 et au verset 2. Philippiens, chapitre 2, au verset 2, où il est dit « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Complicité. Il ne s'agit pas ici d'être la photocopie l'un de l'autre, mais il s'agit de cette mentalité, de cet état d'esprit que l'on trouve, par exemple, chez deux gamins qui se sont mis en tête de faire un coup à un autre, et qui sont tout excités par ce qu'ils vont faire ensemble. Ils n'ont même pas besoin de parler pour se comprendre. Il suffit qu'ils se regardent et ils savent exactement ce que l'autre veut dire. Complicité. Ils sont sur la même longueur d'onde, même sans parler. Ça me rappelle ce que Antoine de Saint-Exupéry disait par rapport justement à ce sujet. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre. C'est regarder ensemble dans la même direction. Et cette complicité, c'est exactement ça. Cette complicité, c'est regarder ensemble dans la même direction. C'est être capable, comprenez-moi bien, de s'entendre avec les oreilles et avec le cœur. On a souvent donné des conseils aux maris et aux femmes. On a souvent dit aux maris, écoute. Et on a souvent dit aux femmes, parle. Je sais qu'aujourd'hui, à bien des égards, il serait nécessaire de donner des conseils dans l'autre sens. Mais quel que soit le sens dans lequel vous voulez donner ces conseils, Je comprends une chose, c'est qu'il y a comme secret de la santé du couple la capacité de communiquer au point de développer cette complicité, cette capacité de créer une harmonie. Alors, je vous pose la question, votre meilleur complice, est-ce que c'est votre mari? Est-ce que c'est votre femme? Le septième ingrédient d'une famille, d'un couple en bonne santé, c'est la réciprocité. On en a déjà parlé dans Éphésiens chapitre 5, où il est dit « Marie, aimez vos femmes, et aux femmes, respectez votre mari ». Mais j'aimerais lire un autre passage avec vous là-dessus, dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 11, il est écrit ceci. « C'est pourquoi, consolez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. » S'édifier l'un l'autre, se construire l'un l'autre, c'est cette idée de réciprocité. En réalité, si je considère que je suis là pour être servi et que l'autre doit satisfaire mes besoins et mes droits, je n'aurai jamais le bonheur que le Seigneur propose dans la famille. Mais au contraire, la réciprocité, c'est apporter à l'autre ses besoins et ses droits. Et si ça va dans les deux sens, nous avons cette satisfaction complète que le Seigneur nous offre au sein même de la famille. La réciprocité, non pas tant chercher à avoir ses besoins et ses droits respectés, plutôt que d'offrir aux autres, d'avoir ses droits et ses besoins accomplis. En le faisant des deux côtés, c'est à ce moment-là que tout d'un coup, naît en nous cette joie et cette paix que le Seigneur met dans nos cœurs. En fait, cette réciprocité, elle nous enseigne aussi une leçon spirituelle. Nous parlons du salut par les œuvres et du salut par la foi. Mais nous pouvons de la même manière parler du bonheur par les œuvres ou du bonheur par la foi. Parce que si j'ai pleinement confiance dans l'autre, cette confiance qui est issue de l'amour que le Seigneur a créé, je ne me fais aucun souci qu'il prendra soin de moi comme le Seigneur le lui inspirera. Alors dans la réciprocité, il y a une application au mariage du principe biblique du salut par la foi et non pas du salut par les œuvres. 7 ingrédients pour la santé de la famille chrétienne. Alors je sais que certains ont fait un mariage pour eux tout seuls. Et puis d'autres ont fait un mariage à deux. Mais j'aimerais vous suggérer que le meilleur mariage, le mariage chrétien, est un mariage à trois. C'est d'ailleurs le seul qui marche, le mariage à trois, avec lui ou elle, moi et Dieu, parce qu'en fait, c'est lui qui l'a créé pour commencer. Alors j'aimerais vous souhaiter une joyeuse Saint-Valentin. Non pas la Saint-Valentin d'un jour, mais la Saint-Valentin du lendemain de la Saint-Valentin, et puis le jour d'après, et puis le jour suivant. Une Saint-Valentin, finalement, de tous les jours. La Saint-Valentin de ceux qui attendent que le Seigneur revienne. Alors, si c'est Saint-Valentin tous les jours, que vous oubliez comme moi la date ou pas, ça n'a pas d'importance, finalement.